Salut les crinqués! Sous nos pieds se cache un deuxième monde. Un monde sombre, humide, où personne ne veut habiter, qui sent mauvais, mais qui, dans la culture pop, est un endroit beaucoup plus populaire qu'on pourrait le croire. Depuis des décennies, les créateurs utilisent cet univers souterrain pour cacher leurs monstres, leurs secrets et leurs héros improbables. Épisode 214, Les égouts.
Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain de Animator Bureau, c'est le podcast des crinqués.
Eh bien non, Red the Gamer n'est pas là avec le titre Les égouts. Je vous invite à deviner où il est caché. Non, c'est pas vrai. En plus, il nous écoute en direct. Salut Red the Gamer
dans
en
les
passant.
Tunnels vers ouais. Bicoline.
Oui, oui. D'ailleurs, tu parles de tunnels. Marc, salut Paperman.
Salut, salut.
Et salut Joël Imaginatrix.
Salut.
Tu parles de tunnels. Je me suis mis à penser à ça. Oui, on parle des égouts, là. Mm-hmm. Mais on pourrait se mettre à parler de tout ce qui est souterrain.
Ouais.
On aurait pu faire un thème général, mettons, souterrain ou tunnel. C'est remarquer ça, les égouts là-dedans.
C'est ça, ou souterrain, niveau 1,
ben oui.
Les égouts.
Ouais,
effectivement.
Exact.
Parce qu'à part ça, là, c'est vrai que sous nos pieds, il se passe plein d'affaires.
Mm-hmm.
Donc, le podcast des crinqués, on prend un thème, on l'explore pour vous démontrer à quel point il est plus vaste que ce qu'on voit à la surface. Mm-hmm. Et on peut nous suivre sur notre page Facebook, sur notre site Internet, sur les différentes plateformes de streaming et en vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, les égouts, non en studio, ça sent pas les égouts.
On n'a pas sorti notre parfum d'égout.
Ça sent pas la swamp, ça sent pas ce que ça sent parfois à New York.
Mm-hmm.
Je sais pas si vous êtes déjà allé à New York, là. Mais c'est bien beau sur les photos, là, les bouches d'égout qui boucanent.
Mm-hmm.
Mais passe pas trop proche.
C'est des vieux tunnels. Hein? Il doit y avoir des affaires qui se cachent là.
Ah non, c'est sûr. Il y a probablement un monde souterrain.
Les crocodiles.
Puis d'ailleurs, ces fameuses bouches d'égout qui fument, là,
mm-hmm.
ça vient d'un système de chauffage et de refroidissement
okay.
qui est en dessous de Manhattan, qui va alimenter plusieurs buildings
mm-hmm.
En chauffage et en refroidissement aussi pour l'été.
Okay.
Puis quand il y a une fuite dans un de ces tuyaux-là, ben ça sort par les bouches d'égout.
Okay. Ah.
Puis c'est à ce moment-là que la voirie vont venir mettre des petites cheminées pour faire évacuer les vapeurs plus haut le temps qu'ils procèdent à la réparation. C'est pour ça que ça fume à New York.
Je pensais pas apprendre ça dans le podcast. Merci, Imaginatrix. Dans la culture pop,
mm-hmm.
les égouts, ça t'inspire quoi?
Ben, je sais pas si vous avez vu ça passer dernièrement, justement à New York. Il y a eu la police de New York ont mis en ligne des images d'un groupe d'hommes qui sont allés dans les égouts. On les voit sur les images rentrer, ouvrir un manhole, rentrer à l'intérieur, fermer la bouche d'égout derrière eux, puis quelques heures plus tard, ressortir. Fait que là, évidemment, ça l'a enflammé l'imaginaire des gens qui ont vu ça. Tout le monde ont mis leurs hypothèses à savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire pendant ces quelques heures-là. Il y en a qui faisaient des blagues, il y en a qui disaient que c'était des Ghostbusters qui étaient en train d'enquêter, il y en a qui disaient qu'ils étaient allés voir les Tortues Ninja. Les théories les plus probables, ça serait qu'ils seraient probablement en train de chercher un trésor ou des objets de valeur, parce que ça arrive souvent que dans les bouches d'égout, les gens échappent des montres ou des bijoux, des objets de valeur. Fait que probablement que ces gens-là étaient partis chercher des objets de valeur. Mais bref, ça montre à quel point que cette partie cachée là, cette partie dont on ne connaît pas, ça fascine vraiment les gens. Les égouts, tu le disais en introduction, c'est vraiment la partie cachée d'une ville. C'est un peu une ville sous la ville, si on veut. Il y a des artères, il y a de la circulation, sauf qu'au lieu d'être des automobiles qui circulent, ben c'est des déchets humains et de l'eau de pluie et tout
d'autres
ça.
Trucs.
Et d'autres trucs louches.
Ouais.
C'est un lieu qui n'est pas accessible au public pour des raisons évidentes de sécurité. C'est un réseau très complexe de tuyaux. La plupart du temps, c'est des tuyaux dans lesquels on ne peut pas vraiment circuler. Mais dans les plus grandes villes, comme New York, par exemple, ben là, on a des tunnels où est-ce qu'on peut vraiment rentrer puis se promener à l'intérieur. Il peut y avoir des réservoirs, il y a des bouches d'égout qui nous permettent d'avoir accès à tout ça, qui vont permettre de faire l'inspection du réseau, qui vont aussi permettre de faire des travaux. Mais c'est vraiment pas fait pour faire du tourisme. C'est vraiment pas ça que ça sert. Petit fun fact comme ça, à Montréal, on a 7000 kilomètres d'égouts sur l'île de Montréal.
OK.
Et à New York, ben ça va jusqu'à 10 500 kilomètres.
Ah, quand même.
D'égouts.
Mm-hmm. Un petit peu moins que le deux. Ouais, c'est quasiment le double.
Presque le double, quand même. Fait que tu vois que ça prend une ingénierie incroyable pour être capable de tout faire fonctionner ça.
J'imagine que ça va prendre aussi savoir la date de la construction des égouts, parce qu'il y en a qui doivent être très,
oui,
très vieux, d'autres qui sont plus récents.
Je pense qu'à Montréal, il y a comme un 150 km là, qui date de plus de 150, de 200 ans. Là. Fait que
c'est
ça amène d'autres enjeux d'entretien. Fait que cet aspect caché-là de choses interdites, ben évidemment, ça entoure le truc de mystère. C'est ce qui fait que notre imagination va s'emporter. C'est ce qui fait qu'on va inventer des histoires. Il y a des légendes autour de ça. On pense aux animaux qui ont été jetés dans les toilettes. Ça peut être des histoires de repères de bandits ou même des repères de super-héros.
Oui.
Des trésors enfouis. Ça peut être n'importe quelle activité clandestine, des gens qui voudraient comme se faire passer inaperçu.
Cacher des trucs.
Exactement. Fait qu'on va en parler plus quand on va parler des livres puis des films tantôt. Mais suite aux événements qu'il y a eu à New York récemment, la police a rappelé aux gens que c'est vraiment dangereux. Faut pas descendre dans les bouches d'égout parce qu'il y a des gaz toxiques.
Ouais.
Il peut avoir des crues soudaines. Mettons qu'il y a une grosse pluie qui se met à tomber, ben les canaux peuvent carrément être inondés, puis toi, pris dedans avec tout ce qui traîne au travers.
Mourir dans une mort horrible.
C'est vraiment une mort horrible, on va se le dire, là.
Oh, c'est pas un film de Stallone, ça.
Le tunnel.
Ouais.
Ça, c'était,
ah, mais c'est
oui,
pas des égouts.
Ouais, c'était le tunnel de l'enfer.
Ouais. Je n'avais pas ça dans ma liste.
Il finit dans les égouts.
OK.
Ouais, ouais, ouais.
OK.
Mais, puis c'est ça, tu sais, il peut y avoir des rats porteurs de maladies, des maladies à cause du contenu des égouts aussi,
déjà,
l'eau qui est très toxique. Fait que bref, c'est ça, c'est pas une place où ce qu'on va, c'est pas une place qu'on connaît. Puis parmi les dangers, à Montréal, il y a déjà eu des décès d'enfants qui sont tombés dans les égouts dans les années 1920. En 1921, la petite Lily Manning, de 8 ans, traversait la rue, puis il y avait des travaux qui étaient faits à cet endroit-là. Elle n'a pas vu le trou, puis elle est tombée dans le trou, elle est disparue. 4 ans plus tard, là, les gens se sont un peu conscientisés sur la sécurité. Ils faisaient beaucoup plus attention. Mais il y avait un petit Douglas Dillon sur l'avenue Papineau qui, lui, il courait après un camion qui transportait du foin. Il voulait attraper du foin pour la chèvre de son voisin. Puis il a échappé à la vigilance du gardien qui surveillait le trou d'homme qui était ouvert. Il avait ouvert un trou d'homme pour pousser de la neige. C'était en hiver. Fait qu'il y était derrière le camion. Fait que quand il est passé vis-à-vis, ben, il est aussi tombé dans le trou. Fait que, bref, c'est quand même très dangereux. Là. Un enfant, ça peut quand même tomber très facilement. En plus, le Douglas, lui, à cette époque-là, il avait mis une grille de précaution, mais tu sais, c'était une grille de deux barreaux. Là. Fait qu'un enfant passe très facilement entre les deux barreaux. Mais même s'il y avait de la surveillance, c'est arrivé quand même. Fait que bref, il y a ces histoires-là aussi qui viennent alimenter l'imaginaire collectif. Il y a des gens qui disent que les égouts peuvent être hantés, qui parlent de ces histoires-là de décès en parlant d'histoires de fantômes. Mais toujours à Montréal aussi, il y a ce qu'on appelle le collecteur William, qui est le premier collecteur d'égouts qui a été construit à Montréal dans les années 1830.
Oh.
Et puis, ce collecteur-là, d'enfants, il avait été construit parce qu'il y avait un problème au niveau de la pollution puis des odeurs de la petite rivière Saint-Pierre. Fait qu'ils ont décidé de fermer la rivière, qui était en fait un égout à ciel ouvert à l'époque. Ils ont décidé de la fermer. Ils ont construit un marché par-dessus. Puis ce collecteur d'égouts-là, il a été en fonction pendant 157 ans, jusque dans les années 1980. Et puis, ensuite de ça, on l'a désaffecté. Et puis, depuis 2017, on peut maintenant le visiter.
Ouais.
C'est au musée de Pointe-à-la-Calière. Et c'est vraiment impressionnant. Je suis allée le visiter il y a quelques années. C'est pas une très longue section, mais on peut marcher à l'intérieur. Ils ont fait un éclairage, tu sais, comme pour te mettre dans un ambiance.
Et sûrement un nettoyage aussi.
Il n'y a aucune odeur, je peux vous okay. le certifier. Il est désaffecté depuis les années 1980, mm-hmm. fait qu'on s'entend pour dire qu'ils ont eu le temps de bien nettoyer ça, puis de tout enlever, qu'est-ce qui pouvait rester d'odeur. Mais bref, c'est ça. Le musée de Pointe-à-la-Calière, il est vraiment hot parce qu'il est... Il est construit sur les anciennes fondations d'un ancien quartier de Montréal. Fait qu'on peut voir ces fondations-là, puis on peut descendre dans ce collecteur des égouts-là. Fait que c'est une petite promenade, pas très longue à faire. Il y a des projections, tu sais, ils ont mis ça vraiment hot. Mais c'est vraiment capoté de rentrer là-dedans, de voir cette chose-là qu'on n'est pas habitué de voir, en plus que ça date de quand même plus d'un siècle. Fait que, puis moi, honnêtement, ça m'a beaucoup inspiré d'écrire des histoires qui se passent justement dans un tunnel. Fait que ça m'a donné des idées, là. Fait que c'est vraiment un univers qui est mystérieux, qui est inspirant, qui inspire beaucoup de créateurs dans leurs histoires par ce côté-là d'inconnu, de laisser l'imagination travailler, d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces endroits-là. Fait que bref, c'est ça. C'est là-dessus qu'on se lance ce soir.
C'est qu'on sait que ça existe.
Mm-hmm.
On sait que c'est là.
Mais on le voit pas.
Mais on le voit pas.
C'est ça.
Puis en plus, tu parles d'infrastructures désaffectées.
Oui.
Donc, il y a les égouts qu'on connaît, mais qu'on voit pas, et les égouts qu'on connaît pas.
Oui. Quand on passe, tu sais, on marche dans la rue, des fois, on passe au-dessus d'une bouche d'égout, on voit un peu, on voit de l'eau, des fois, on entend l'eau. Mais on se demande à quoi que ça ressemble, tu sais, de quoi que ça a de l'air à l'intérieur.
Où est-ce que ça va?
Tu sais, y a-tu des bébites? Y a-tu de la faune? Fait que...
Y a-tu des prisonniers qui essayent de s'échapper?
Un micro-climat ou un micro... un milieu de vie incroyable.
On sait pas.
On sait pas.
Mais c'est vrai que je sais pas si on l'a parlé pendant le podcast, là, mais les crocodiles à New York.
Ben oui.
Mm-hmm.
Dans les égouts.
Ça serait un mythe parce que dans le fond, ça serait impossible pour les crocodiles d'être capables de vivre dans ces conditions-là.
Ouais, c'est de l'eau chaude.
C'est de l'eau très froide puis extrêmement toxique aussi à cause des déjections humaines.
Comme plein de mythes ou de canulars, ça part quand même de quelque chose de plausible.
Mais oui,
les gens jetaient leurs crocodiles dans les toilettes.
Il y a eu des animaux, des poissons, des tortues, toutes sortes de trucs qui étaient jetés dans les toilettes parce que les gens ne pouvaient plus.
Sûrement eu un film d'Anaconda. Dans les égouts à quelque part, c'est sûr.
Je vais vérifier sur Tubi.
Quelqu'un qui jette un anaconda dans sa toilette.
Ou sur Frisson TV.
Ouais.
Si ça existe, là, il y a ça sur Frisson TV.
C'est sûr.
Fait que bon, oui, il peut avoir de la faune dans les égouts. Mm-hmm. Il peut avoir tout ce qui est un petit animal qui peut s'insérer dans... Mais c'est pas... c'est pas animal friendly. c'est pas un environnement.
Ben, de toute façon, ça serait pas friendly pour les humains non plus.
Non, pour personne, en fait.
Mm. Les animaux qui vivent là-dedans, habituellement, sont contaminés ou sont très.
C'est ça.
Ont une constitution.
Très résistante.
Donc, à lire dans un de tes prochains livres?
Ben, en fait, j'ai trouvé le moyen d'insérer un tunnel dans une de mes histoires, puis c'est un tunnel improbable.
Okay.
Ça se peut pas, mais je l'ai mis pour que ça se peut. Fait que,
okay.
Pourquoi pas? Tout se peut, de toute façon, en fiction.
Ben, absolument.
Yes.
Dans la littérature, les égouts, Marc?
Hey, aujourd'hui, on va descendre dans le domaine des ombres, des fluides douteux, des rats mutants. Les égouts en surface, Joël nous l'a dit, ça représente la pompe municipale, des trucs bien plates, là. T'sais, des tuyaux, puis surtout des affaires qui coûtent extrêmement cher à réparer.
Mm-hmm.
Quand on regarde ton compte de taxe, tu te dis, mais mon Dieu, que ça coûte cher les égouts. Puis quand ils changent un tuyau, tu comprends pourquoi.
Mm-hmm.
Ben, c'est quand même profond. Mais dans la culture geek, c'est le berceau des secrets, refuge des marginaux et souvent la porte d'entrée vers des mondes parallèles.
Parce que
le tuyau magique
Portal Fantasy
qui nous permet d'aller dans le monde de champignons, il se trouve où?
Ah ouais.
Dans les égouts. Dans Super Mario.
J'avais pas pensé à Super Mario.
Ah,
c'est donc ben niaiseux. C'est vrai que quand il descend, il est dans les égouts.
Il est dans les égouts. Mm-hmm. Tout à fait. Puis dans le film, il trouve Yoshi dans un égout aussi.
Mm-hmm. Okay.
À la fin du premier film. On va oublier les Tortues Ninja deux minutes. On va revenir parce que. Je suis que tout le monde y a pensé en partant. Ça, on va parler de littérature de BD. En partant automatiquement, c'est quoi? Les Tortues Ninja.
C'est ça.
Mais on va se concentrer sur d'autres choses. On va essayer de vous faire découvrir des trucs. Peut-être pas découvrir parce que c'est quand même des affaires assez classiques et assez reconnues. Alors, on met toutes nos petites bottes de caoutchouc. On met notre petit manteau, notre petit capuchon, puis on n'oublie pas les gants.
Mm-hmm.
Idéalement, un bon masque aussi.
Parce que,
on va commencer par des livres.
Ouais.
Je vais commencer par Neil Gaiman. Neil Gaiman, qui est un auteur que j'adore. Bon, oublions le fait que présentement, il est dans un truc un peu plus sale.
Poche.
Mais bref, on va parler de Neverwhere, qui est un roman, qui est un classique. Alors, à Londres, ça se passe à Londres, il y a un monde en haut puis un monde en bas. Alors, Londres d'en bas, c'est un immense réseau souterrain avec des métros abandonnés, des égouts. Et là-dedans, c'est tous les gens qui vivent en marge de la société se retrouvent vraiment dans cette partie-là. Alors, on a vraiment ce deux mondes-là. Neil Gaiman n'a pas inventé ça. Hein? Mm-hmm. Je veux dire, Victor Hugo en a parlé dans Les Misérables. Je pense à Jean Van Damme dans SOS Bonheur aussi. Mais ici, Neil Gaiman, ce qu'il va faire en sorte, c'est qu'il va transformer les égouts dans une genre de cour féerique, dangereuse, magique, loin de certains de nos clichés qu'on a de la saleté. T'sais, on a l'impression que des fois c'est tout le temps sale, mais dans ce roman-là, il y a des parties que c'est vraiment là, des grandes métropoles dans les égouts, une grande partie. C'est très, très bon. Neil Gaiman qui est un très bon écrivain.
Quand tu as dit on met nos bottes et nos petits manteaux, moi j'ai vu l'imperméable jaune. Là.
Exactement. Alors, impossible de passer à côté de ça. C'est par la bouche d'égout de Derry que Pennywise attire le petit Georgie au début avec son fameux bateau.
Mm-hmm.
Bon, de toute façon, on va se le dire, Georgie, il était con. Parce que quand tu vois un clown qui sort de la bouche des égouts, tu vas pas le voir, tu te sauves.
Ouais.
Mais quand on comprend après le pouvoir de ça, tu te dis, j'aurais fait la même affaire. Les égouts, les galeries pluviales, c'est dans le fond, pour Stephen King, c'est bien entendu sa tanière, mais tout le réseau d'égouts, c'est un peu comme son système digestif. C'est avec ça qu'il va récupérer sa nourriture, qu'il va l'apprendre, qu'il va la digérer, qu'il va même la recracher. Tu sais, ça fait partie de lui-même. Ça fait partie de son anatomie de créature, dans le fond. Il s'est approprié les égouts, il s'est approprié tout ce monde-là pour en faire lui. Alors, pour Stephen King, c'est un lieu, bien entendu, mais c'est une prolongation de sa créature, dans le fond. C'est que les égouts deviennent un personnage à l'intérieur de son roman. Fait qu'il réussit à nous faire haïr les clowns.
Ben oui.
Bon, bref.
Malgré qu'il y en a que c'est pas trop difficile de leur faire haïr les clowns.
Moi, ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, quand t'écoutais Portuguese, quand t'étais jeune, t'haïs les clowns à vie. Là. Mm-hmm. C'est clair. Moi, je connais pas personne qui écoutait Portuguese qui aime les clowns. Mais ils réussissaient aussi à nous faire peur par les égouts. Tu sais, je veux dire, après avoir lu ça, ou regardé ça, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont regardé, mm-hmm. soit la vieille série ou les nouveaux films, même la nouvelle série Welcome to Derry, quand tu passes à côté d'une bouche d'égout, seul dans la nuit, t'as mm-hmm. tant tendance à dire, si je vois un maudit ballon rouge, je me sauve. C'est clair. Mm. Tu sais, il a réussi à faire ça. C'est aussi une métaphore des traumatismes qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que les égouts vont devenir ça, vont devenir un traumatisme pour ces enfants-là, puis ils vont être marqués à vie par ce personnage-là. Alors, Stephen King a cette tendance-là. J'ai toujours dit, Stephen King, l'horreur, c'est ce qui est le plus proche de nous. Mm-hmm. C'est pas souvent les monstres. Hein. Mm-hmm. Ça, on le voit rarement dans sa forme. Ce qui fait peur, c'est sa capacité à faire en sorte de développer nos propres terreurs, nos pires terreurs devant nous. Puis souvent, les pires terreurs, mais c'est des terreurs qui sont reliées à nos traumas familiales. Mm-hmm. Alors, voilà. Écoute, c'est un roman de New Weir urbain. Je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai eu des très bonnes critiques. Ça s'appelle Le Roi des Rats. C'est China Mineville. Alors, le protagoniste découvre qu'il y a un fils du Roi des Rats qui se retrouve plongé dans une guerre secrète qui se joue dans les entrailles de Londres. Moi, je ne l'ai pas lu parce que je ne l'ai pas encore à la bibliothèque. Mais il semble-t-il qu'on rentre vraiment dans une architecture viscérale des... Mais on pousse le côté sale, même dans des retranchements poétiques un peu à l'intérieur de ça. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Dans mes recherches, j'ai fait comme, je le connais pas. Habituellement, je parle pas de ce que je connais pas, que j'ai pas lu. Ben, j'ai pas tout lu non plus. Alors, tout bien que je parle de, comme le prochain, je ne l'ai pas lu, mais j'ai joué.
OK.
Ça s'appelle Metro 2033, écrit par Dimitri Grouchonski. C'est une série de romans. Là, on est dans du post-apocalyptique. Alors, on est à Moscou, en Russie. Et les survivants de cet univers-là se retrouvent dans les égouts, dans le métro, mais également dans les égouts. Alors, c'est la gestion des conduits de ventilation, la gestion des égouts, qui deviennent des zones qui sont non infestées, où ce que, il y a des mutants là, au-dessus de la planète, là, puis il y en a certains qui descendent, là, et on vit là-dedans. Alors, toute l'action se passe dans les métros, les égouts, les bouches, les coups, les fameux tunnels. Et c'est hyper claustrophobe, en tout cas, le jeu, ça se passe vraiment dans les égouts, là, t'es tout le temps en train de regarder partout. Mm-hmm. J'ai commencé à l'écouter en audio libre, j'aime beaucoup ça, puis c'est vraiment très angoissant. Alors, parce que là, les égouts, c'est pas le fun. Mm-hmm. Quand tu rentres d'un égout, là, c'est mort, mm-hmm. c'est radioactivité, c'est des monstres, c'est des mutants. Il n'y a rien de bon là, dans les égouts. Là. C'est pas, je trouve une belle petite boîte avec un objet magique dedans, là, comme dans Dungeon. Là.
Ouais.
Non. T'sais, quand tu es obligé de rentrer d'un égout dans le métro, là, dans le jeu, tu es mieux d'être bien équipé parce que ça se peut que tu ne ressortes pas vivant de là.
Mm-hmm.
Ça, c'est clair. J'en ai parlé au début. Mon cinquième, je pense que ça va être Misérable de Victor Hugo. Mm-hmm. Parce que, on va dire, Victor Hugo chez les geeks.
Oui. Ben, ça fait pas mal partie de la culture pop.
Ouais.
Oui, Victor Hugo chez les geeks. Oui, Victor Hugo partout, ma foi du bon Dieu, parce qu'il écrit de tout. Il a fait n'importe quoi, Victor Hugo. C'est un des plus grands écrivains qu'on a jamais eu dans l'histoire.
On n'est pas en train d'adapter à nouveau Les Misérables.
Sûrement.
Il me semble que... Mais une version contemporaine.
Tu peux tout faire avec du Victor Hugo. Je veux dire, c'est tellement bon, c'est tellement bien écrit que tu peux l'adapter. Tu préfères un Victor Hugo dans l'espace.
Je trouve que ça d'ailleurs, je crois que dans les classiques interdits, publiés chez ADA, je crois qu'ils viennent de sortir Les Misérables.
Voilà. Okay.
Alors... L'adaptation à leur sauce.
Jean Valjean qui s'en va, qui fuit dans les égouts avec Marius sur ses épaules. On part dans les égouts des labyrinthes de Paris. On sait que les égouts dans Paris, c'est encore plus vieux que ceux-là de Montréal. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres, mais ça doit être immense. C'est, dans le roman, c'est une action, c'est une scène d'action, là. Je veux dire, tu lis ça, là. C'est incroyable. Puis il met beaucoup de détails techniques dans son écriture aussi. Tu sais, on dit souvent que cette partie-là, c'est un peu comme l'ancêtre de ce qu'on appelle le dungeon crawling, les fameux romans de on s'en va dans le donjon, un peu comme le nouveau là, qui vient de sortir. Là. Le nouveau roman que Red nous parle souvent, Dungeon Crawling Carl, c'est ça. Alors, et on se rapproche un peu de la façon de voir l'égout, un peu comme à la Stephen King. Parce que pour Victor Hugo, les égouts, c'est un peu c'est comme vivant. La conscience de la ville, c'est vivant. Tu sais, tout se suscite dans les égouts. C'est comme un genre d'immense réseau de c'est vivant. C'est une conscience vivante. C'est extraordinaire. C'est vraiment. Écoute, c'est sûr que c'est pas toujours facile à lire du Victor Hugo parce que ça s'adapte, il y a une façon d'écrire, mais c'est vraiment bon. Mm-hmm. Honnêtement, là, je sais, c'est. Toutes les histoires de Victor Hugo sont bons. Moi, je vous les conseille tous. D'ailleurs, ils ont sorti un immense omnibus de une partie de son œuvre. C'est vraiment beau. On passe la BD. Je commencerai pas par les Tortues Ninja. Je vais commencer par Batman le culte. Mm-hmm. Bon, je pourrais prendre probablement toutes les histoires de Batman. Parce que déjà, Batman vit dans un genre d'égout. Que de genre de caverne.
C'est ça, je me suis posé la question.
Oui, parce qu'il utilise beaucoup des égouts de Gotham pour se promener, pour aller dans un X à l'autre.
Ben, il y a le pingouin aussi qui a été élevé vécu dans les égouts.
Puis, bien entendu, quand on parle d'égouts dans Batman, on parle de Killer Croc.
Ben oui.
Qui est un peu comme c'est le personnage qui vit dans les égouts. Et pour la plupart des écrivains, des scénaristes, parce que c'est difficile de parler d'une série parce qu'il y a eu beaucoup de scénaristes, mais souvent, c'est les égouts de Gotham, ça représente la psyché tordue de la ville. Là, tout ce qui est mauvais dans la ville se retrouve là-dedans. Là. Puis à part Batman, habituellement, quand tu tombes dans les égouts de Gotham, t'en sors pas.
Ouais.
C'est soit t'en sors mangé ou mort, ou noyé, mais il y a une Batman qui est capable de se promener là-dedans et en sortir vivant. Mm-hmm. C'est assez intense. Bon, Tortue Ninja. Kevin Eastman, Peter Lord qui sort des Tortues Ninja dans les années 80. Pff, que dire? Je veux dire, quand on parle des goûts, on pense des goûts. Tu sais, on va oublier là, les films. Là.
Ça a l'air quasiment le fun.
Oui, mais on va oublier ça, là, OK? Parce que, premièrement, dans les Tortues Ninja, les écrous de New York sont sombres, sont crasseux, sont pleins de graffitis, des rats, des. Il y a même des rats des coups robotiques, là. Mm-hmm. On s'entend que. Pour les Tortues Ninja, c'est leur QG. Mm-hmm. C'est là qu'ils vivent, c'est là qu'ils vont vraiment se promener dans toute la ville. Ça va devenir un peu une extension de eux également. C'est un repère également où ils vont s'entraîner, où ils vont se battre
c'est
aussi.
C'est un refuge aussi.
Un refuge, malgré le fait que ça soit sale, que ça soit dégueulasse pour eux autres. Ils
c'est leur
là-dedans.
Safe place, ouais.
C'est ça. Leur place sécuritaire pour eux autres.
Ça reste des tortues mutantes.
Ben oui, des tortues mutantes qui se battent contre des rats robots dans les égouts. T'sais, ils pensaient pas que ça allait pogner. Hein, quand ils ont sorti ça en noir et blanc, le premier BD en noir et blanc, écoute, je pense que ça a été imprimé sur une imprimante dans leur sous-sol. Là.
Puis c'est directement inspiré des mythes, des légendes d'animaux jetés dans les...
Puis avec un petit peu de petit côté japonais, ninja, on allait prendre un petit peu de la culture japonaise, on a fusionné ça avec la culture new-yorkaise, américaine, pourquoi pas des tortues, hein? Why not?
Oui.
Pourquoi pas?
Pourquoi la pizza?
Je sais pas.
On ne sait pas, hein?
Oui, l'autre jour, j'ai fait une course, puis il y avait des enfants qui avaient fait des dessins sur le parcours pour nous encourager, puis il y en a un qui avait dessiné une pizza, puis c'était écrit « Envie d'une bonne pizza ». Puis juste avant la pizza, il y avait un manhole, une bouche d'égout. Puis j'étais comme, Colin, la pizza ressemble en maudit à une bouche d'égout. Je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose.
D'ailleurs, il lance des bouches d'égout comme arme.
Il y a peut-être une symbolique
au niveau
dans
de la
pizza.
Forme. Ouais.
Je sais pas, c'est sûr que Kevin Eastman y en a déjà parlé à quelque part, là. Au niveau de ces.
Ouais, mais peut-être que c'est expliqué dans la BD aussi, non?
Peut-être aussi. Moi, j'ai pas tout lu. Il y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées sur les Tortues Ninja. Moi, j'ai la chance d'avoir les premiers en numérique, mais pas en vrai, parce que je serais pas ici aujourd'hui. Je serais ailleurs, parce que ça vaut très, très cher. Et bien, ça a pogné énormément. Pourquoi ça a pogné énormément? Parce que c'était quatre tortues qui se battaient, mais en même temps, il y avait les quatre archétypes.
Qui ont des noms d'artistes italiens.
En plus, c'est aucun rapport. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais tu avais le bagarreur, qui était Raphaël. Tu avais l'intelligent, qui était Donatello. Le leader, Leonardo. Puis le crétin, qui était Michelangelo. Fait que tu te retrouvais là-dedans. Chaque personne se retrouvait dans ces personnages-là.
Ouais.
C'était, bien entendu, pourri d'action. Dans les années 80, les bandes dessinées comiques, il fallait que tu ailles l'action.
Ah non, mais c'est... ils sont multiplateformes.
Oui, mm-hmm. tout à fait.
Je veux dire, même les jeux vidéo des Tortues Ninja sont classiques.
Tout, tout est classique. Les films, les séries télé, les mm-hmm. séries animées. Les, ben, jeux...
les films sont pas tous classiques pour les mêmes raisons. Là.
Non, mais ça reste culte ouais. quand même. Même, ouais, absolument. Même dans leur, des fois, dans leurs défauts,
c'est ça.
Ça reste quand même que c'est des
quand,
films...
Quand on ramène Vanilla Ice, là...
Ouais, mais ça, c'est une parenthèse. On va s'entendre. Mais, tu sais, les égouts, il n'y a rien de plus geek mm-hmm. qu'un égout de Tortue Ninja.
Mm-hmm.
T'sais, un canapé qui ont pogné dans le fin fond d'un égout qui ramène ça, la vieille TV de Donatello qui est à écran cathodique, tout petit crap qui flash, t'sais, je veux dire, les pizzas qui ramassent en haut, parce qu'ils vont les chercher, ils rouvrent les bouches d'égout. C'est drôle.
Mm-hmm.
T'sais, je veux dire, c'est bon enfant, c'est tellement bien écrit, tellement bien dessiné en même temps, tellement actif, tellement beau. C'est vraiment un hit. Ça a été un gros hit. Puis je comprends pourquoi ça a pogné, parce qu'on avait besoin de tout ça. On avait besoin d'une bande dessinée un peu plus relax, un peu plus le fun,
ouais.
sans tomber toujours dans la grave attitude de Batman, de « je suis Batman hey, ».
Puis le pire, c'est que, à moins que je me trompe, la naissance des Tortues Ninja en BD, c'est pas mal, à l'époque, des BD dark.
Oui, oui, oui.
Quand les, ben, Spawn.
Je vais t'en parler, tu penses.
OK. Ah, ça a rapport avec les égouts. Ben, ouais. Je savais pas.
Mais oui, effectivement. Okay. Fait que, ça faisait fait du bien.
Un petit peu plus de légèreté.
Un petit peu plus de légèreté, ça a fait du bien. Classique. Mm-hmm. Vraiment classique. Puis les nouveaux films d'animation qui ont sorti récemment.
Oui.
Ben, en plus des nouveaux films en live, là, c'est vraiment très bon.
Oui.
Je veux dire, c'est, ils ont vraiment bien fait ça. Les nouveaux ont un style un peu shell. Shell, tu sais, un peu comme dans Zelda Wind Waker, là, Shell
okay.
Ring. Là,
OK, je sais pas.
C'est vraiment bien fait, okay. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Je te parle d'une série de rochettes et de bokeh qui s'appelle Le Transpersonnage. Vous avez peut-être vu la série télé. À l'origine...
Qui ne s'est jamais terminée, finalement.
Qui s'est jamais terminée. Je pense que oui, ils ont forcé pour faire une dernière saison, mais je pense que ça a souffert un peu comme...
Mais ça a pas été... Je pense pas que ça ait été traduit.
Ouais, mais je sais que ça a souffert un peu de la répétition okay. aussi, là,
ouais.
un peu comme Hannibal. Là.
Ouais.
Ils ont comme rushé la finale. À l'origine, c'est Loeb et Rochette qui écrit une histoire sur une époque glaciaire où ce que les gens vivent dans un train. Et bien entendu, de la diversité de la classe sociale, les riches sont en avant, mm-hmm. les pauvres sont en arrière. Le train a un mouvement qui est éternel, alors il mm-hmm. roule autour de la Terre. Tu sais, c'est très SF, mais en même temps, c'est très SF, vieille SF. Très post-apocalyptique aussi, tu sais, c'est vraiment c'est dur, c'est très très, la bande dessinée est dure,
mm-hmm.
moralement, physiquement, c'est pas le fun à lire, c'est le fun à lire, mais mm-hmm. c'est pas le fun, le monde est pas le fun,
mm-hmm.
et puis quand on est arrivé dans le tome 4, là, il est décédé quand même après le premier tome, Bokeh a repris le dessus. Et Rochette, le dessinateur et le créateur à l'origine, voulait pousser l'histoire un peu plus loin. Le train, OK, c'est bon, mais je veux dire, dans sa tête, il pouvait pas ne pas avoir autre chose que de la glace sur la planète.
Mm-hmm.
Fait qu'à un moment donné, tu sais, on va découvrir qu'il va y avoir une base souterraine qui va s'avoir faite dans les égouts. Il y a encore des gens qui sont vivants à l'extérieur du train. Puis les conditions...
C'est dans la série, ça.
Oui, dans la série. Okay. Ils ont un peu peut-être okay. adapté ça. Moi, je te parle de la BD, mais oui, dans la
oui.
série, oui.
Mais je pense que... Il me semble avoir vu ça dans la série.
Et bon, les conditions d'infrastructure, ça nous rappelle un peu Sion dans Matrice.
Mm-hmm.
OK. Okay.
C'est égout, tunnel, tu sais, c'est les beaucoup industriels, mm-hmm. tout ça. Puis c'est l'allégorie de la survie à tout prix, dans le fond. C'est même si on est poussé à vivre dans notre merde puis nos égouts, ben l'humain va le faire parce qu'on veut survivre à tout prix et on est une race qui refuse d'abandonner. C'est ça. La qualité, bien entendu, de transpersonnage, c'est la grande qualité de dessin de Rochette en noir et blanc qui est extraordinairement bien faite, mais c'est aussi au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, tout ça. C'est de la très, très bonne SF que je vous conseille à tout le monde. Il y en a un qui est Gloomhaven. C'est une bande dessinée qui est de Dungeons & Dragons. Voilà, je vois rien que dire ça. Dungeons & Dragons, Dungeon Crawl, mm-hmm. ça se passe dans un égout.
Mm-hmm.
C'est classique. La plupart des jeux d'RPG qu'on a joué quand on était jeune, ça se passe dans les égouts. On se promène, on rencontre des mutants, des cubes gélatineux, un beholder de 2-2. puis t'es balle chasseur un dragon, puis tu meurs. Mais c'est ça.
Mm-hmm.
Voilà. C'est classé. Et Spawn. Tom McFarlane, Spawn.
Ouais.
Image comique. Wow. C'est Al Simon qui est revenu des morts. Il vit dans ce qu'on appelle Rat City. C'est une ruelle sordide qui se connecte directement au réseau souterrain des égouts de New York, entouré des clochards. Les clochards qui vont devenir un peu... dont ils vont devenir le protecteur des clochards, mais les clochards vont devenir un peu comme son réseau de,
ouais. mm-hmm.
de, d'informations.
C'est ça, ses yeux. Ouais.
À la John Wick.
Ouais.
Hein? Parce que mm-hmm. dans John Wick aussi, on a ça.
Ouais.
Tu sais, les gens qui vivent dans les égouts, puis un peu dans les bouches de métro, puis tout ça. Pourquoi? Ben, style graphique de McFarlane, les fameuses bouches d'égout de New York, il y en a tellement fait. T'sais, à part la cape de Spawn puis la chaîne là, qui est partout, mm-hmm. des bouches d'égout qui avec des la brume qui sort de partout, les chaînes de Spawn qui traînent dans l'eau dégueulasse. Puis
mm-hmm.
là, on est dans l'époque de McFarlane, dans son pic. Là.
Oui, oui, absolument.
C'est des dessins grandioses. Là. Chaque planche est pratiquement une toile. Là. C'est incroyable.
Des doubles pages, on en avait.
Ah, c'était là, la couleur puis tout. Là. Mm. T'sais, Image, là.
Ben, c'est eux qui ont enlevé le cadre blanc.
Oui, ben oui.
Autour des pages.
Ils ont sorti les personnages des planches.
Mm. Oui.
Ça a été vraiment une belle... N'écoutez pas le film.
Ouais.
Ce que je vous conseille.
Et n'attendez pas trop après le prochain, parce non. que ça doit faire 30 ans qu'ils en parlent.
Ils en ont fait deux, je pense.
Non.
Ils n'ont rien fait un.
Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont en faire okay. un autre.
C'était mauvais, hein, tabarnache.
Ouais.
Ouais.
Mais regardez le documentaire sur Image Comics.
Sûrement, oui, ça, oui.
Ça, là.
L'ascension et la
chute. Non, non, non. Je veux dire, c'était des créateurs, c'était pas ouais. des gestionnaires.
Non, non, tout à fait. Mais tu sais, il y a eu la même histoire avec Metal Hurlant en France. Là.
OK.
C'était des créateurs, puis c'était pas des gestionnaires. À un moment donné, ils payaient pas leur monde, ça a fait faillite.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, c'est tu mets une gang de créateurs.
Je te dirais que c'est l'histoire de beaucoup, beaucoup de maisons d'édition.
Et voilà, tu mets une gang de créateurs.
C'est la passion d'abord.
Ouais, de tripeux. Mm. Puis tu leur dis, allez-y, mais...
Vous avez carte blanche.
Toute la question de la gestion, hein, des fois, ben,
c'est ça.
Ça, ça fait.
Vous avez carte blanche. Oups, on n'a plus d'argent.
Alors bref, la prochaine fois que vous passerez devant une grille d'égout et que vous allez entendre un gargouillement bizarre mm-hmm. ou un bruit bizarre, ce n'est peut-être pas juste l'orage d'hier qui a fait en sorte que ça a fait monter l'eau.
Mm-hmm.
C'est peut-être Pennywise qui vous regarde. C'est peut-être un mutant. C'est peut-être une tortue qui a bien faim et qui vous demande une pizza.
C'est ça.
Ou c'est peut-être Jean Valjean qui passe en dessous de vous autres pour se sauver le derrière.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, c'était mes suggestions de lecture. En BD et en roman. J'en ai oublié, oui. parce qu'il y en a mm-hmm. tellement.
Ah, non, non, c'est sûr que...
Tu sais, je veux dire, c'est tellement des éléments importants. Dans toutes les histoires d'horreur, il y en a partout.
Ouais, mais fait. Est-ce que ça peut compter pour un cliché ou un raccourci scénaristique?
Oui.
Les bouches d'égout, parce que...
Ça dépend comment tu l'utilises.
Ouais. Ah.
Tout dépend de la façon dont okay. tu vas ouais. l'utiliser.
Ça peut être même Deus Ex Machina, qui appelle ça. Mm-hmm. Là,
on peut s'en servir comme
ça aussi. Tu ne sais pas comment te sortir de quelque chose. Oh, il y a une bouche d'égout.
Oui,
ouais, c'est vrai.
T'sais, on voit ça souvent dans les films, là, mm-hmm. autour de la momie. Là.
Okay.
Ouf, on est pogné, tout le monde veut nous sauver. Oh, il y a une bouche d'égout.
C'est ça.
Bouf, on est sauvé.
Ah, ben tu vois l'inverse de la bouche d'égout, c'est la trappe dans le plafond.
La trappe dans le plafond.
C'est... Tunnel niveau 4.
La trappe dans l'ascenseur.
Oui, ça aussi.
Ouais.
Aussi.
Tu sais, moi, à chaque fois que je regarde, je prends un ascenseur, je regarde la trappe, puis là, je me dis, ça, mettons, il y a un alien qui arriverait.
Comment
pour monter là? Parce okay. qu'ils montent tellement vite, les gens. Là.
Oui, c'est vrai.
T'sais, ils rouvrent, ils rentrent, sans faire de bruit,
mm-hmm.
ils referment en 3 secondes.
C'est ça. Moi, ah. déjà, en partant, il faudrait que mes mains se rendent.
Ouais, moi, je me rends pas non plus, là.
Là, ça prend disais, deux personnes idéalement.
Mm. Puis là, je me disais, est-ce qu'Alien, on peut relier ça avec les égouts? Plus des tunnels.
Mm. Ouais.
Ouais, mais.
Des galeries.
Ouais, des galeries. Dans ouais. Alien versus Predator, me semble, le deuxième qui
peut-être.
A des égouts. Mais bon, bref. Mais ça ferait des belles créatures d'égouts.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
D'ailleurs, j'ai une belle anecdote là-dessus sur Alien que je te conterai tantôt.
OK. Ben, moi, pour ce qui est de l'écran, bon, évidemment, il y a beaucoup d'adaptations. De romans ou de BD qui ont été faites,
mm-hmm.
mais j'ajouterais un film que je n'ai pas vu parce que c'est un film avec Orson Welles qui est The Third Man, qui doit probablement s'appeler en français Le Troisième Homme.
Pas vu non plus. Moi, le seul film que j'ai vu de lui, c'est Citizen Kane.
OK. Ben, la poursuite finale dans les égouts de Vienne serait devenu légendaire. Ghostbusters 2.
Ah oui.
Il y a une rivière de slime psychique qui circule dans les égouts de New York.
Il tombe dedans, d'ailleurs, c'est dégueulasse.
Mm-hmm. OK. Il y a un film d'horreur qui passe probablement à Frisson TV qui s'appelle Chud. C-H-U-D pour Cannibalistic Humanoid Underground Dwellers.
Il faut que j'écoute ça.
OK. Eh ben. Qui veut dire probablement Underground Dwellers. Ça, c'est quelqu'un qui se promène dans les égouts, là, clairement. Là. Donc, des créatures mutantes vivent dans les tunnels et les égouts. Et c'est un film culte des années 80.
Il faut que je trouve ça.
OK. Chud. De Guillermo del Toro, le film Mimic.
Oh, mon Dieu.
Des insectes géants évoluent dans les infrastructures souterraines.
Ça, tu sais, il y a une maladie qui était faite par des rats, je crois. Puis là, il crée une espèce d'insecte qui bouffe les rats pour enlever la maladie.
C'est une bonne idée.
Mais les insectes étaient censés mourir parce que c'était seulement des femelles, donc ils ne pouvaient pas se reproduire. Mais ils ont muté dans les égouts.
OK.
Puis ils ont été capables de se reproduire.
OK.
Donc là, ils ont une infestation d'insectes.
Ça a l'air le fun.
Écoute, le scénario est digne de Mr. Burns, les singes de Mr. Burns. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un film.
OK.
Débile.
Un film que j'ai vu que j'avais pas nécessairement aimé, mais on m'avait tellement dit de bien sur ce film-là. Un film asiatique, L'Hôte, The Host. C'est une espèce de grosse bébite, Godzilla, là. Mais c'est une créature qui émerge des égouts et des cours d'eau pollués.
Non, on ne dit rien.
Le film Ratatouille.
Oui.
Oui.
C'est des rats.
Oui.
Donc ça se prête bien aux égouts. À l'ombre de Shawshank, il réussit à s'évader après avoir creusé un trou en arrière d'une affiche.
Pendant combien d'années, je pense?
J'ai aucune idée, mais ça se passe dans les égouts.
C'est une nouvelle de Stephen King, ça.
Oui. Et je terminerai par un immense classique de l'horreur. Jason à Manhattan. Ah! Je m'excuse de vendre le punch du dernier film à s'appeler Vendredi 13, parce que les autres qui ont suivi s'appellent pas Vendredi 13.
Mm-hmm.
T'as Jason en enfer, t'as Jason X, t'as Jason,
Jason
et
X.
Freddy. Mais j'ai le dernier Vendredi 13, c'est le 8e, et c'est Jason à Manhattan. Il meurt dans les égouts.
J'ai encore des frissons avec Jason X. Quand il se fusionne avec les nanorobots là, pour devenir le Jason
Mais
X.
Je vais te dire que le visage congelé dans l'azote, là.
Ah, c'est incroyable.
Ça, c'est une séquence.
C'est solide.
De mort époustouflante.
C'est solide.
Mais c'est probablement le seul bon bout.
Ah, ben, il y a le bout en réalité virtuelle aussi pour se sauver qui.
Il crée des
jeunes femmes peu vêtues dans des sacs à couchage.
C'est ça, il ramène au camp. Oui, je pense qu'il y a une bonne. Ah non, c'est pas dans celui-là où il prend un sac de couchage puis qu'il varge sur un arbre.
C'est lui, dans ça, oui, pour se sauver.
Okay.
Il crée une réalité virtuelle dans le camp.
J'aurais pas aimé ça être dans le sac de couchage.
Oui, mais il était pas vivant. C'était rien qu'un hologramme.
Ah! Série télé. Bon, évidemment, il y a eu plein de séries télé des Tortues Ninja aussi.
Ouais.
Suggestion de ma mère, j'y avais pas pensé. OK? Parce que je lui parle à tous les jours, puis je lui dis on va parler des égouts au prochain podcast. Ah oui, allez-vous parler de ça? J'y avais pas pensé. La série La Belle et la Bête.
Ah oui.
C'était
avec Linda Hamilton.
Linda Hamilton. Et la bête, c'était Ron Perlman.
Oui. On est des années 90. Là.
C'est ça. La bête s'appelait Vincent. Vincent vivait dans les égouts.
Une série quand même assez forte des années 90.
Probablement qu'à l'époque, Ron Perlman et Linda Hamilton étaient peut-être pas les icônes qu'on connaissait. Linda Hamilton avait peut-être fait Terminator.
Ben, Pellman avait certainement fait Au nom de la rose, La guerre du feu.
Ouais, peut-être, mais sûrement pas Hellboy.
Non.
Ça, c'est avant Hellboy, mais c'est ça. Vincent vivait dans les égouts. Dans la saison 2 de Stranger Things, les tunnels du monde à l'envers rappellent un immense réseau d'égouts organiques.
Ouais, puis dans la nouvelle série en animé aussi, il y en a beaucoup que ça se passe dans les égouts.
Okay.
Bref, Hawkins, tout est pourri.
Oui, absolument.
Les rues, les égouts, le ciel.
Buffy contre les vampires. Ouais. Les égouts servent régulièrement de refuge aux vampires et aux démons.
Ouais.
Les X-Files. Plusieurs épisodes mettent en scène des créatures vivant dans les égouts, notamment l'épisode appelé The Host, donc probablement en français l'hôte aussi, non?
Mm-hmm.
Mais toi, X-Files, t'as tout vu ça?
J'ai pas tout vu. J'essaie de chercher. J'ai pas tout lu non plus parce qu'il y en a beaucoup.
OK.
Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes qui se passent dans les égouts, mais spécifiquement, là, c'est ça la problématique avec Marvel. C'est qu'ils en ont tellement fait qu'à un moment donné, t'en oublies.
Ouais.
Mais... Je cherche une enquête.
Non, 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 mais là, je parle pas. Non, c'est les... j'ai pas dit les X-Men, les X-Files.
Ah, les X-Files, oui, ok, excuse-moi, je cherchais X-Men. Hey. Oui, ben oui. Oui,
donc
tout
ça,
à fait.
Ça, il y a plus d'égout là-dedans.
Ah, ouais, ouais, ben oui, oui, ok. Là, je cherchais les X-Men.
Ok.
Là, je me disais, ça se passe dans X-Men. J'ai dit, oui, je m'en souviens, Gagnon, mais là, je suis de Oz, X-Men. Dans X-Files, tout à fait, je m'en souviens.
Ok.
Oui.
Mais. L'épisode, l'autre, ça te dit quelque chose,
oui? Oui, tout à fait.
Okay.
Ouais, ouais. Il y a plusieurs fois Mulder descend dans les égouts,
mm-hmm.
ce qui n'est pas le cas de Scully.
Okay.
Qui est beaucoup plus intelligente que Mulder, puis il ne va pas se fourrer dans des places qu'il n'a pas d'affaires.
Okay.
Mulder, lui, c'est un personnage de Lovecraft. Fait, quand il voit quelque chose de bizarre, il faut qu'il aille le voir.
Mm-hmm.
Mais en même temps, il a la chance d'Indiana Jones. Donc, il ne meurt jamais. On ne sait pas pourquoi. Il est comme ça.
Voilà. Futurama, les mutants vivent dans les égouts de New York. Les Simpsons, plusieurs épisodes montrent des communautés cachées ou des aventures absurdes dans les égouts. Et je terminerai par la Casa de Papel.
Oui.
C'est par là qu'ils essaient de faire passer l'or.
Mm-hmm.
Je m'excuse pour le punch encore.
Fondu.
Oui, absolument. Semble-t-il qu'on aura une extension de l'univers de la Casa de Papel encore.
Ouais, ben, il y a eu une série qui s'appelait Berlin. Que j'ai
deux saisons.
Moi, j'ai pas écouté.
Deux saisons. La deuxième vient de sortir, mais là, Berlin, c'est les préquels.
Ouais, mais il est mort.
Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on en fait des préquels.
C'est ce que t'aimes.
Oui. Ben, ma blonde m'a dit que c'était quand même bien. Là. Mais là, l'extension de l'univers, ce serait après.
Mais l'acteur qui joue Berlin.
Oui.
On va se le dire, là. Il y a un charisme.
Absolument. Ben, de toute façon, ce. Bien des acteurs et actrices de cette série-là.
Ah oui, oui. Ça joue beaucoup sur l'acting.
C'est ça.
T'sais, parce qu'on va se le dire que le scénario, c'est Mr. Burn encore. Là. C'est ni qu'une tête. Là. Mais les acteurs sont très bons. Les acteurs et les actrices sont
oui,
très bons.
Oui, ben, c'est ça. Dirigés, parce que c'est tellement...
Mais en même temps, c'est de l'action.
Oui.
T'sais,
mais je veux dire,
c'est,
pour ce qui est du scénario, je mettrais ça dans la même catégorie de Cobra Kai.
Oui.
Okay? Ouais. Quand tu te mets à analyser trop ça... Là,
ah, faut pas que
tu
analyses.
Tu te dis, voyons donc, ça fait... 4 heures qu'ils boivent, sont sous-raides, puis après ça,
ouais.
Ça paraît plus.
Ben, ils ont peut-être une potion magique.
Ouais, peut-être. Peut-être.
C'est une potion de après mal de tête.
J'ai pas fait de recherche pour ce qui est des jeux vidéo, mais tu me parlais de Mario, je pense que ça serait probablement...
Ben, Metro 2033, c'est un jeu que j'ai joué, moi, sur... pas la Xbox, là, mais sur le stream d'Amazon Luna, je crois que ça s'appelle. Je l'ai testé là-dessus, là. J'ai bien aimé ça. C'est un person shooter. Là. Tu joues un bonhomme avec une mitraillette, puis tu promènes des
écoutes. Mais tu parlais des Dungeon and Dragon,
ouais,
tout
ça,
Donjon Dragon.
Il y en a plein. Tu sais, je veux dire, un classique Donjon Dragon, ça se passe dans un donjon.
Mm-hmm.
Habituellement, dans un donjon, tu as des égouts. Fait que,
ouais.
Je pense qu'il n'y a pas personne qui a joué à Donjon Dragon qui n'a jamais descendu d'un égout, qui est mort d'un égout, qui a monté le niveau d'un égout, qui s'est fait blesser d'un égout. Habituellement, dans les égouts, il y a des cubes gélatineux qui mangent le monde qui meurt dans les égouts.
Mm-hmm.
Puis ça, ben, c'est un genre de cube vert. Là. Puis ça mange tout.
Okay.
Fait que quand tu mets ta main dedans, tu perds ta main tout. Mais c'est bourré de trésors parce que ça fait rien que brûler le corps.
Les tissus organiques.
Les tissus organiques, les os, tout ça.
Okay, ça garde les bijoux.
Ça garde les bijoux, les armes magiques, tout ça. Fait que quand tu en trouves un, tu fais comme... Yes.
C'est un moyen super efficace de nettoyer les égouts.
Tout à fait.
Mais en laissant les trésors.
Oui, parce
puis
que
les
chef
ressources.
Des égouts, lui, le chef du donjon ramasse les. Mm-hmm.
Fait que finalement, c'est le pouvoir cosmique.
Tout à fait.
OK.
Mais c'est dur à tuer. Mais quand t'en tues un, tu peux trouver des objets magiques assez forts, merci.
Mm-hmm.
T'sais? Mais en même temps, tu te dis, si l'objet magique est très fort, la personne qui est mort. Était devant très fort aussi, fait que t'es mieux d'être très, très fort.
OK.
C'est pas facile parce qu'il n'y a pas grand-chose qui le blesse.
Mm-hmm.
T'as un cube de gélatine.
Oui.
C'est... Je ne dirai pas comment tuer pour pas vendre le punch aux jeunes joueurs.
Mm-hmm.
Je veux les voir mourir devant un cube gélatineux. Comme okay. Je suis déjà mort souvent. Ouais.
OK. C'est à votre tour. Je suis passé par là.
Yes.
Faites vos classes, vous autres aussi.
Ouais, mais tu sais, les vieux jeux donjons de DOS, là, puis de. C'est tout ça, là.
OK.
C'est, souvent, ça se passait là-dedans. Menzo Berenzan se passe dans un monde de cavernes. C'est pas vraiment des égouts, mais tu sais, c'est tout un monde de cavernes à l'intérieur. Fait que ça, mm-hmm. ça peut être relatif à ça, là. Tu sais, Elric aussi, ça, des cavernes. Des cavernes, là, les égouts, là. On peut relier ça peut-être au niveau 2, là, mais
ouais.
Il y en a plusieurs.
Ouais.
Puis il y a sûrement d'autres jeux là, qui se passent dans les égouts tout le long.
Oui. Ben, j'ai pas parlé, parce que je sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment des égouts, mais il y a parfois des courses automobiles
ouais.
dans des espèces de gros tunnels mmh. avec de l'eau dans le fond. C'est-tu un égout, ça?
Ben,
un égout, un égout pluvial?
Oui, un genre de... d'évacuateur, ouais, de crue, ouais. Ça a un nom.
La scène de Terminator 2, ça passe dans un genre d'égout pluvial, de récupérateur comme ça.
Ouais, avec la moto.
Avec
hein.
la moto, puis le ben, camion. C'est ça. Là, ouais. C'est ça, là, c'est une scène épique, puis ça, c'est un genre de récupérateur d'eau. Là.
Mm-hmm.
Dans le fond, les égouts sortent là,
okay.
quand il y a des crues, puis après ça, ça descend vers probablement l'usine de filtration ou l'océan. Je sais pas.
C'est ça.
J'ai aucune idée. Là.
Parce que c'est un égout, mais pas à déchets.
Non. C'est un égout mmh. probablement pour les eaux pluviales. Mmh. Pis,
ouais.
Mais ça, c'était une scène épique. Là.
Absolument.
On se rappellera que quand il a sa première petite moto, puis qu'il y a le camion qui court après, là, tu fais comme les tavernines.
Non, non. Je la reverrai. Je la reverrai aujourd'hui ou on la reverrait aujourd'hui. Je pense que ça a bien vieilli. Pareil.
Ah, oui, oui, oui. À part les chocs de la. La suspension de l'Harley Davidson qui est très résistante. Là,
OK, ouais.
Qui saute. Là.
Mmh.
Moi, je me dis, je fais ça avec mon auto, c'est sûr que tout arrache, là, mais c'est tellement bon.
Non, non, mais c'était du James Cameron.
Ouais, mais les effets spéciaux, là, tu sais, quand tu vois T-1000 sortir, là, puis tu te dis, ça a été fait en quelle année?
Mm-hmm.
Puis tu regardes les films d'aujourd'hui, tu te dis des fois, mon Dieu, c'est mauvais, c'est laid. Puis ça, ça a sorti, ça fait plusieurs années,
ouais.
c'est encore très beau.
Ah oui. Vraiment. Ben, de toute façon, le premier parc jurassique est encore très impressionnant aujourd'hui.
Toujours. Ça restera toujours.
Puis, je vais dire comme toi, il y a des effets 2026 qui sont très mauvais. Là.
Le CGI, des fois, là, ça vaut pas les bonnes vieilles techniques et tactiques.
Ouais. Donc, de la vieille. J'espère qu'on vous a donné le goût de découvrir dans la culture pop un petit peu plus les égouts. À part de ça, ne vous y aventurez pas.
Non.
Allons-y avec nos samalumes, Imaginatrix.
Bon, samalume, moi, cette semaine, c'est pas la première fois que je vous en parle. Ça revient à chaque année, mais c'est la première année que je m'embarque dans le projet. C'est la nuit de l'écriture pour amasser des fonds pour l'association du cancer. C'est organisé par Cynthia Dubé, mm-hmm. qui est venue à quelques reprises ici, et par Marie-Jeanne Rioux, qui, depuis quelques années, elle travaille ensemble. En fait, elles font une nuit d'écriture. Elles se trouvent un endroit où est-ce qu'elles peuvent écrire toute la nuit. Puis, elles nous partagent des lives toute la nuit pour nous montrer leur état de veille et leur faculté qui décline ouais. au fil de la
probablement,
nuit.
Probablement, oui.
Mais bref, elles font ça pour sensibiliser pour mm-hmm. la recherche, pour le cancer et ramasser des fonds aussi. Puis, à chaque année, moi, j'avais tout le temps une activité de prévue cette fin de semaine-là. Fait que j'essayais de les suivre le plus tard que je pouvais, mais souvent, ça finissait autour de 2-3 heures du matin. Mais là, cette année, j'ai dit, là, moi, je vais prendre ça off cette année. Je vais vraiment le faire la nuit au complet. Fait qu'on fait ça à distance. On fait ça entièrement en ligne. Fait que moi, je vais être du côté de Dégely. Je vais passer la nuit chez mes parents pour écrire toute la nuit. Fait que c'est ça. Les filles vont faire des lives. Moi, de mon côté, je vais faire des stories sur Instagram. Puis c'est ça. Le but, c'est vraiment de de collecter des fonds. Les filles ont quand même réussi à amasser un très bon montant cette année. Je pense qu'ils ont dépassé, ils ont de loin dépassé leur objectif, mais ils ont dépassé tout ce qu'ils avaient accumulé dans les années précédentes. Mm-hmm. Fait que ça va vraiment bien, mais ça serait vraiment le fun. Là, on est quelques auteurs et autrices à se joindre à elles à distance. Fait qu'on veut faire rayonner ça le plus possible. Puis je vais voir si je suis capable de passer à travers la nuit. Je pense que ça fait au moins une vingtaine d'années que j'ai pas fait une passer à travers une nuit au complet. Là.
Forte.
Mon cœur aime pas beaucoup la caféine, okay. Surtout quand je suis fatiguée. Fait qu'on va essayer de trouver des grignotines, des trucs.
Ça me rappelle l'époque des wake-up.
Justement, c'est à cette époque-là justement que je... Mm-hmm. Que les dernières fois que j'ai réussi à faire des nuits complètes, c'était à l'époque que je travaillais nuit, justement. J'étais virée à l'envers, fait que c'était un peu plus faisable. Mais là, dans un contexte... Mais là, ça tombe bien, j'étais en vacances cette semaine, fait que je vais peut-être me lever un peu plus tard les matins pour me préparer. Ouais. Je vais scraper toute ma routine que je me suis faite au cours des derniers mois, mais c'est pas grave, on le fait pour la bonne cause. Ouais. Fait que bref, c'est ça. On essaye ça vendredi prochain. C'est dans la nuit du 26 au 27 juin. Fait qu'on se lance là-dedans. Fait que si vous voulez nous suivre, moi, j'ai partagé le truc sur ma page Facebook. Vous pouvez aussi suivre Marie-Jeanne Rioux, auteur, ou Cynthia Dubé, auteur. C'est ces deux-là qui organisent tout ça puis qui nous partagent toute l'information par rapport à ce beau défi-là.
Mais tu mentionnes... qu'au fur et à mesure que la nuit avance, que les facultés s'affaiblissent ou changent, ça donne pas des résultats inattendus, ça, des fois?
Moins qu'on pense. Pour avoir essayé d'écrire très tard là, dans mes dernières années, là, essayer d'avoir poussé la machine un petit peu plus que ses capacités. Là.
Ou tomber sur l'inconscient plutôt que le conscient.
Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'en passant au travers de toute la nuit au complet, je vais me rendre à ce stade-là où on trouve des idées magiques soudain. Là.
Les portes de la perception vont peut-être s'ouvrir.
Oui, c'est ça. Exactement. Paperman.
Écoute, j'en ai quelques-uns. Vous me permettrez. Il y a un duo, je ne connais pas son nom, qui a décidé de réécrire l'histoire d'Alien, mais à partir de la perspective de l'Alien.
Mm-hmm. OK.
Puis lui, il imaginait ça comme si c'était un piège de cristal. Parce que dans le fond, l'Alien, tranquille, relax, il y a des duos qui viennent kidnapper un œuf. Mm-hmm. Hop, elle se développe, elle est toute seule dans un vaisseau, elle ne connaît personne. Elle essaie de se sauver. Il y a même un duo avec une bande qui essaie de la tuer. Mm-hmm. Elle, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut survivre. Elle se promène des conduits. J'ai trouvé ça génial.
Mm-hmm.
Parce que souvent, on n'a pas la perspective du monstre.
Mm-hmm.
Okay.
Pour nous, c'est un monstre, mais pour elle, pour l'alien, on est quoi pour elle?
Mm-hmm.
C'est foutrement intéressant de réfléchir à ça.
Oui, feras la même chose avec Star Wars.
Tout à fait. Ils l'ont déjà fait, ça.
Ah oui? OK.
Ils ont fait une animation à un moment donné avec l'ingénieur de la Death Star qui se fait plomber après avec Rogue One sort pour son fameux trou dans le qui détruit. Mm-hmm. Fait que là, il passe en commission parlementaire de l'Empire pour l'accuser de négligence. Puis là, il explique ses points en disant là, écoutez, là, vous m'avez demandé de construire une Death Star avec pas d'argent, personne. Puis là, j'ai personne. Puis là, écoute, il a fallu que je me dépêche. Puis là, oui, mais il n'y a pas de trou. Mais il dit foutu coup bien que je la fasse sortir à quelque part, l'énergie. Là. J'ai dit, c'est. Il un auto. Il dit, il y a quelque chose pour ça. Ah, écoute, c'était marrant. Là. Puis il dit, il essaie vraiment de se défendre en voulant dire c'est pas de ma faute. Là, ça a explosé, mais j'ai fait mon possible. Là.
Mais pour les gens qui sont sur l'étoile de la mort.
Ça va être épouvantable.
Luke Skywalker,
c'est un terroriste.
C'est un terroriste.
Mais dans le jeu de rôle, c'est ça qui est le fun. Parce que tu as ce côté-là que tu peux jouer avec. Parce que tu essaies d'expliquer aux joueurs, tu sais, vous faites partie, mettons, de la rébellion. Faut jamais oublier que la majorité de ces gens-là sont pas complices de l'Empire.
Mm-hmm.
Ils travaillent pour l'Empire, mais pour eux autres, c'est un travail comme les autres. Là.
Mm-hmm.
Je dis, se lèvent le matin, ils vont travailler. Là.
Mm-hmm.
Je dis, ils sont pas conscients de tout ce qui est arrivé, puis tout ce que l'Empire fait. Tu sais, je veux dire, puis à un moment donné, tu tombes dans un cercle aussi vicieux de se dire, ah, oh, j'ai découvert la vérité, mais si je parle, va m'arriver quoi, moi? Mm-hmm. On peut faire le parallèle avec l'Allemagne nazie de l'époque. Ouais. Mm-hmm. Il y a sûrement un paquet d'Allemands qui n'étaient pas savait. Au courant, qui ne savaient ouais. pas. Puis il y en avait probablement un paquet aussi qui le savaient puis qui se disaient
« Je peux rien tabarnak, faire.
Moi, je suis contre ça. C'est un esti mm-hmm. débile, ce gars-là. Mais si je parle, je me fais fusiller demain matin. Là, parce que lui, tu parlais contre lui, tu étais mort. Là.
Non, ouais.
T'en prends, c'est la même affaire. » Fait que oui, mais j'ai trouvé ça intéressant de me dire,
oui.
pour nous, on est quoi, tu sais, pour l'alien, dans le fond, on est peut-être des super méchants, dans le fond.
Mm-hmm. C'est une bonne leçon de remise en perspective, puis d'empathie aussi, pour se mettre à la place de ceux qu'on pense être les méchants.
Ben oui, parce que, dans le fond, tout ce qu'elle veut, elle, c'est survivre, avoir la paix. Puis nous, on est venus l'écœurer.
C'est ça.
Puis il y a même un duo qui a la même barbe que Hans dans Piège de Cristal, qui essaie de le tuer dans un couloir d'arrêtation, comme dans Piège de Cristal. J'ai trouvé ça quand même poussé, mais j'ai trouvé ça intéressant.
C'est un angle différent.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé, mais dans Alan Dean Foster, qui a écrit le roman du premier film, parce qu'ils font toujours la novélisation des films. Ben, à l'époque, ils faisaient ça. Ils ont fait ça pour Star Wars, mais maintenant, ils ne font plus, je pense. Puis, à un moment donné, tu sais... Il y a du monde qui demande à H, avez-vous communiqué avec... Puis il dit, je vous donnerai pas tous les secrets de la compagnie, là, mais c'était sous-entendu qu'il y avait eu... Probablement que H avait essayé de communiquer avec l'alien pour savoir qui il était, d'où ce qu'il venait. Là. C'était sous-entendu qu'il a essayé. Là. Mm-hmm. Les résultats, on le sait pas, mais il se laissait une porte ouverte pour pouvoir exploiter ça. Malheureusement, ce qui n'a pas été exploité. Non. Parce qu'après ça, on est tombé dans le militaire puis on tue tout le monde. Film que j'adore, le deuxième. Mais c'est que là, au niveau de la profondeur, là, on est pas mal rôle pokerette, on va dire. J'haïs les contes interdits. J'aime pas ça.
Je prends un
classique, je trouve ça vulgaire, je trouve ça juvénile. C'est pas pour moi.
Mm-hmm. Okay.
Maintenant, ça pogne beaucoup. Il y en a beaucoup qui en achètent, il y en a beaucoup qui aiment ça. Parfait. J'ai aucun problème. Par contre, j'ai eu à la bibliothèque les classiques interdits. Là, je me suis dit, tu t'en mets mon petit affaire. Non. Puis là, il me sort l'appel de Cthulhu. Alors, mon libraire me dit, hey, on a ça, l'appel de Cthulhu jusqu'au fond de la pile, David Bédard. Je connais pas l'auteur. J'y ai dit, les contes interdits, c'est pas pour moi. Je pense que je suis pas là dans ma. Elle dit, ouais, mais lis ça. Bref, je l'ai mangé en 2 jours. J'ai trouvé ça excessivement bien écrit. J'ai trouvé que l'auteur David Bédard, premièrement, il était un très grand connaisseur de l'œuvre de Lovecraft. C'est bien entendu quand même gore, mais pas à l'extrême. Le punch final est incroyable. Puis c'est vraiment une relecture de l'appel de Cthulhu, mais mis un peu à la sauce québécoise et plus contemporaine. J'ai beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si toutes les autres classiques interdits sont comme ça, mais lui, là, c'est un must. Honnêtement, là, pour les gens qui aiment Lovecraft, là, j'ai vraiment adoré ça. Honnêtement, je suis tombé là-dedans puis j'ai fait comme, oh, les tabarouettes. OK, je me suis trompé. Pas sur les contes interdits, mais sur lui. J'ai fait comme, OK, j'avoue, j'ai rappelé mon libraire. J'ai dit, t'avais raison. Je me suis trompé. Peut-être que l'autre série, c'est pas pour moi parce que c'est plus gore, un petit peu plus érotique aussi. Des fois, ils vont même jouer avec la frontière. C'est correct, c'est pas mon genre, mais ça, c'est mon genre. J'ai beaucoup aimé ça. Puis l'auteur s'appelle David Bédard. Honnêtement, c'est de la très bonne littérature d'horreur québécoise. J'ai bien aimé ça. Je vous le conseille fortement. Et le livre est magnifique. Il y a comme des yeux sur le côté. Là. C'est vraiment beau. Là. Honnêtement, j'ai capoté ma vie. C'est très, très beau, honnêtement. Metroprolia, le tome 2. J'en avais déjà parlé. Fred Duval, Igor Rowling, au dessin avec Christophe Bouchard. Metroprolia, Fred Duval, c'est probablement le meilleur auteur de science-fiction qu'on a sur la planète présentement, tous médiums confondus. C'est un scénariste de génie qui fait partie de la nouvelle vague de la science-fiction, le fun, où ce qu'il y a enfin quelque chose de positif. On est dans un univers post-apocalyptique, pas nucléaire, rien, mais c'est qu'au niveau de... On manque de ressources, manque d'énergie, beaucoup de gens, surpopulation, les grandes capitales sont devenues des méga capitales et le monde l'histoire se passe dans Berlin, dans la ville de Berlin en Allemagne. Et l'auteur a réfléchi à un système monétaire qui est calculé par tes pas. Parce que vu qu'il n'y a pas d'énergie, la plupart de l'énergie n'existe pas ou est utilisée pour la survie, les gens marchent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et t'es rémunéré par rapport au nombre de pas que tu fais. Donc, tu as payé un transport, mettons, en train pour aller aux États-Unis, par exemple, ben, ça coûte 8 millions de pas. Fait que, tu sais, pour t'acheter des souliers à la mode, ça coûte 300 000 pas. C'est brillant. Je trouve ça excessivement brillant. Dans ma tête, ça fait comme, OK, l'idée. Et on va être dans ce monde-là. C'est un détective privé qui essaie de survivre dans ce monde-là. Et lui, sa conjointe, sa petite amie, est partie, a émigré aux États-Unis, puis il veut le retrouver là. Fait ce qui va faire en sorte qu'il va prendre des contrats très payants, mais avec des grosses corporations, parce qu'on est encore un peu dans le cyberpunk. Là, c'est géré par des grosses corporations qui sont plus ou moins légalement et moralement très éthique, on va se le dire.
Souvent, c'est moralement. Ils sont capables d'être légal, mais...
Exactement, mais tu sais, au niveau de la morale, on va se le faire, là. Mm. Puis, ben c'est ça, c'est du thriller, c'est du policier, c'est des enquêtes dans ce monde univers-là. En même temps, il y a beaucoup de fashion, beaucoup de mode, le monde est bien développé, tu sais. Puis j'aime beaucoup ça, le style des personnages, je trouve que ça fait vraiment... C'est de la bonne SF, c'est du post-cyberpunk, c'est super bien écrit, bien entendu, bien dessiné. Le tome 2 vient de sortir, et là, on est plus dans la surpopulation et les frontières dans le tome 2. Mm-hmm. C'est magnifique, c'est vraiment une belle série de SF, si vous aimez ça, là. Très, très, très belle série, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis, je terminerai avec les Burrows, série sur Netflix.
Oui.
Malheureusement, qui n'a pas été renouvelée. J'ai détesté la finale. Mais j'ai adoré la série. C'est une genre de ville qui a été fabriquée pour la retraite. Les gens qui partent à la retraite, qui sont quand même aisés, vont vivre là. C'est dans le milieu du désert. Puis on va suivre les aventures de ces personnes-là. C'est toutes des personnes âgées, là, qui ont 70 ans et plus. Là. C'est avec Alfred Molina, entre autres, Jenna Davis. Quoi, il y a un paquet de monde là-dedans. C'est super bien. C'est drôle, c'est touchant. En même temps, tu sais, c'est le fun de voir des personnes qui, normalement, sont catégorisées troisième âge. Habituellement, tu ne travailles plus là, quand tu es rendu à un certain âge. Là, ils sont là, sont bons. Il y a un petit côté SF. C'est les mêmes, c'est les Duke Brothers là, qui sont produits par ça. Puis, c'est vraiment bon. Malheureusement, ça a été coupé par Netflix.
Ouais.
Netflix a cette tendance-là de couper. Je ne sais pas pourquoi. Puis, Stranger Things Class of 85, là, c'est un bonbon. C'est vraiment du bonbon, honnêtement. Okay. Là. Si vous aimez, ça se passe entre la saison 2 et 3. Puis si vous aimez Stranger Things, vous ne pouvez pas faire autre chose qu'écouter ça. Là. C'est vraiment beau. L'animation est belle. Les personnages sont autant attachants que d'habitude. Là. Je ne sais pas si c'est les mêmes voix en anglais hein, qui sont doublées. J'ai aucune idée. Mais c'est bien fait. C'est bien écrit. Okay, voilà, c'était mes « ça m'allume
okay. ».
Puis là, ben, là, faut que je me trouve ton film. Là.
Oui, Chud.
Ben, ça, c'est clair. Faut que je fasse une recherche là-dessus. Moi, oui. Écouter ça un soir tout seul. Là.
Oui. D'après moi, ça serait... Si tu le trouves pas sur Frisson TV, d'après moi, sur Tubi, ouais, c'est...
Tubi, il y a tout.
Ouais.
Il y a plein d'affaires sur Tubi, c'est l'enfer.
Mm-hmm. Mais c'est rendu avec plein de pubs aussi.
Mm. Ouais, mais ça, il y en a partout.
Ouais.
T'écoutes une émission en différé à TVA.
Mais quand j'ai commencé à écouter Tubi, il n'y avait presque pas de pubs.
C'est encore gratuit, hein?
Ben absolument.
Tu payes, il faut que tu payes.
Mm-hmm.
Voilà, c'était pas mal ça, mais ça m'allume.
Oui. Ben moi, mais ça m'allume, j'en ai deux. Le premier, c'est que ma petite collection de vieilles BD Marvel commence à avoir de l'allure. Si c'était des originaux, je serais riche comme Crésus. Parce que c'est vraiment des rééditions fidèles. Okay? Les pubs sont dedans toutes. Là.
C'est comme Incredible Hulk numéro 1. Ça doit être le numéro 1.
Oui.
Tout dans une coupe de 100 000.
J'ai aucune idée, mais la version originale serait marquée 12 cents. Celle-là est marquée 4,99 US.
Hey, mais Fantastic Four.
C'est ça. J'ai la BD de Captain America, la première apparition du Faucon. Hey, puis l'origine est tellement ridicule.
Oh, les Giant Sands. Size de X-Men.
Ouais, mais celui-là est aussi très dispendieux en version originale parce que c'est la première apparition de cette version-là des X-Men.
Hey.
Qui ont été embauchés pour aller chercher sans spire.
Le costume de Daredevil. Mais
l'origine de Daredevil, ça m'a pris une éternité à le lire. Là. Je lis genre une page par soir avant de m'endormir dessus. Non? Mais c'est pas pire. Mais j'aime ça qu'ils refont ça. J'ai le premier Superman comme ça aussi, mais je l'ai pas mis là-dedans parce que c'était pas Marvel. Là.
C'est super le fun. Parce qu'on s'entend qu'avoir les originaux de ça,
oublie ça.
C'est impossible, là, mais les lire.
Ah oui.
C'est le fun. C'est comme un fenêtre sur le passé.
Absolument.
Puis c'est accessible. C'est disponible, oh oui. Puis c'est pas très dispendieux.
Je veux dire,
c'est... les tripeux, là, de Marvel.
C'est ça, puis c'est tellement naïf, là. Je veux dire, c'est...
C'est woke, hein, Marvel, là, à cette époque-là, hein?
Je veux dire...
Dang, un personnage tu... noir, en bédaine.
Oui, en bédaine. Non, non, mais tu... tu sors en réunion, en sortie scolaire, tu te fais piquer par une araignée, tu deviens Spider-Man.
Tout à fait. T'as-tu écouté la nouvelle série de Spider-Man, Spider-Noir? On a commencé.
Ah oui. Oui, ça, je suis là-dessus, mais je ne l'ai pas tout écouté encore.
On a 3 épisodes d'écouter.
Ouais, c'est. Faut pas. C'est bien, là, mais si tu écoutes ça pour voir Spider-Noir, non, là, non. Tu le vois pas très souvent.
Mais il est bon, Nicolas Cage.
Bon, oui.
Il est tout le temps bon dans tout ce qu'il fait.
Et mon autre, ça m'allume, c'est le dernier Nintendo Direct.
Oh.
OK? Où ils font leurs annonces du mois ou du trimestre, ou peu importe, les jeux qui s'en viennent. Ils sont très forts dans ce que je vais appeler la déception. C'est un peu le principe des films d'horreur, là. Non, non, mais dans le sens, tu t'attends à quelque chose, mais c'est pas ça qu'ils te donnent. OK? Dans un film d'horreur, tu t'attends à faire un saut. Finalement, c'est un chat. Tu te dis, ah, finalement, il n'y a pas de monstre, boum! OK? Nintendo fait ça. À un moment donné, il présente une image de Mickey Mouse avec une clé dans les mains. C'est Kingdom Hearts. Puis là, ça dit, le combat est sur le point de recommencer. Fait que là, tout le monde se dit, c'est le 4, c'est le 4! Ben non, il annonce la collection 1, 2, 3 pour la Switch 2. Mais l'écran tombe noir. Et boum, la bande-annonce du 4 après. Fait que là, tout le monde capote. Mais moi, c'est à la fin où ils ont annoncé le remake de Zelda Ocarina of Time.
Est-ce que c'est vrai qu'il va être en deux parties?
Je ne sais pas.
Il y a des rumeurs qui disent qu'il va être en deux cassettes. Deux cassettes.
Moi, je me dis, ils vont faire comme FF7. Okay? Final Fantasy 7, là, ils ont fait le remake, la troisième partie sur le point de sortir, là. T'achètes 3 jeux pour refaire le même jeu. Non? Wow. Ça a marché pour ça. C'est ce qu'ils vont essayer de faire avec Zelda. Mais moi, j'attends le remake de Super Metroid.
Ça revient.
Donc, je me dis, s'ils font le remake de Ocarina of Time, à un moment donné, il y a un
pourquoi
remake
pas un nouveau jeu de Super Metroid. Ils en font un pour Fox.
Ben, en fait, ben, Star Fox, c'est encore Star Fox 64.
Ah, c'est un remake? Ah, je pensais que c'était un nouveau jeu.
Puis Star Fox 64, c'est pas la première fois qu'ils le refont.
Ouais, mais là, ça va être beau.
Mais c'est ça. Mais si c'est un remake de Super Metroid, qui est Metroid 3, je m'achète une Switch 2. C'est sûr. La prochaine fois qu'on se rencontre,
oui.
Pour faire des enregistrements de podcasts, j'ai pas dit pour faire l'enregistrement d'un podcast. J'ai dit l'enregistrement d'un podcast. Ce sera au Salon Légende, oui. Les 10 et 11 juillet prochains.
On sait pas trop comment que ça va être, là, mais on va être là. Puis on
va être équipé.
On va rencontrer des gens, puis on va vivre le moment présent.
Mm-hmm. Non, oui. Non, non, ça,
on va surfer sur la vague.
On a ce qu'il faut, s'ils viennent nous voir, on a ce qu'il faut pour aller les voir. Ouais,
j'espère qu'il va y avoir des gens, qu'il va y avoir beaucoup de gens, que ça va être plein. Mm-hmm. Fait que c'est...
Non, non, moi je pense que la qualité de ce qui va être présenté là ne m'inquiète pas trop.
En tout cas, la qualité du marketing...
si vous voulez savoir, là, allez voir sur la page Facebook de Légende, leur chaîne YouTube aussi, ils ont fait des entrevues. Avec des créateurs qui vont recevoir avec...
Le nombre de temps qu'il y a là-dessus, c'est fou, là.
C'est... Mm-hmm. Bref, vous allez être déçus de manquer ça si vous venez
c'est
pas.
C'est ça.
Définitivement.
Donc, on ne sait pas c'est quoi le thème des podcasts qu'on va enregistrer. Ben oui, on est tous là.
Ben, j'ai mon kiosque à côté du kiosque
des podcasts.
Kiosque
présent pour le podcast.
C'est ça. On est tous là pour cet événement-là durant lequel on va... interviewer du monde, puis on va jaser de différents thèmes.
Les passionnés ensemble, on devrait jaser pas mal.
Absolument. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, notre site Internet, les plateformes de streaming sur YouTube. On se retrouve bientôt.